dissonances.
Trois fois par mois, histoire de voir les choses autrement, sous un autre angle ou dans une autre perspective, nous ferons ensemble un pas de côté pour prendre le temps d'écouter des parcours de vie. Des parcours vécus par des gens comme vous et nous, des voix dissonantes, des voix d'hommes et de femmes qui portent un éclairage différent sur nos rêves et nos folies.
Dissonance.
Joseph Hula
et Dany Joulier. Jean-Jacques Gandini, avocat à la robe rouge et noire, sur Dissonance.
Maître, c'est à vous.
Quand on va en justice, on est paumé, etc. T'as fait du droit, tu vois. Et c'est comme ça qu'ils m'ont incité, c'est les copains militants anarchistes qui m'ont dit, ça serait, on aurait besoin d'avocats comme toi. Effectivement, lorsque je suis devenu avocat, eh bien, c'était pour être avocat, pour être auprès, disons, des dominés contre les dominants. Quand il y a des luttes, que l'avocat est au service de ses luttes, eh bien, c'est un, on peut dire, une mayonnaise qui prend ensemble. Ici, à Montpellier, comme à Perpignan, dans la région, il y a toujours un petit vivier d'extrême droite assez important. Et donc, un des combats qu'on a menés ici depuis très longtemps aussi à Montpellier, créer un groupe antifasciste au sens large du terme, donc toutes les forces de gauche et d'extrême gauche. Et donc, le collectif actuel, c'est le collectif du 22 mars. Il y a une nouvelle génération d'avocats et d'avocates impliqués et qui prennent des risques. Eh bien, ils n'hésitent pas à aller sur le terrain et effectivement être présents là où sont les gens pour les défendre directement, si on peut dire. Le but de l'anarchisme, c'est de rappeler qu'on est tous libres, et en même temps, on est tous égaux et on est tous solidaires.
Aujourd'hui, Dissonance vous invite à partager une heure avec Jean-Jacques Gandini, cet avocat qui, durant toute sa carrière, s'est emparé du droit contre les puissants pour en faire un outil au profit des opprimés, agissant advocatum à leur côté afin de leur permettre de devenir maîtres de leur destin. Avocat honoraire depuis 2016, il continue toujours aujourd'hui à lutter contre les nantis et à dénoncer au sein de la Ligue des droits de l'homme les violences policières et les agissements des membres de l'extrême droite. Son engagement en anarchie n'est pas étranger à sa détermination à prôner l'application réelle de la liberté et de l'égalité, des notions simples mais que les riches et les puissants ont toujours trouvées très dangereuses. Aujourd'hui, dans Dissonance, il sera question de mai 68, d'écriture, de rencontres marquantes, de brèves saisons de l'anarchie vécues en Espagne et en Ukraine, de la Chine aussi, ainsi que de l'Athénée libertaire de Montpellier, le centre Ascaso d'Urruti. Dans Dissonance, Jean-Jacques Gandini évoque le collectif du 22 mars de Montpellier et son rôle déterminant dans la lutte contre l'extrême droite en Occitanie à travers notamment l'affaire dite du commando d'extrême droite intervenu violemment à la fac de droit de Montpellier le 22 mars 2018. Et il rendra hommage aussi à la relève qui est là avec les avocates et avocats rebelles d'aujourd'hui, des hommes et des femmes qui font passer leur idée, leur éthique, leur humanisme et leur combat avant leur carrière. Jean-Jacques Gandini, avocat à la robe rouge et noire, sur Dissonance. Bonjour Jean-Jacques Gandini. Est-ce qu'on peut trouver dans ta filiation, dans ce qu'ont vécu tes parents pendant la guerre, puisque tu es né en 1948, est-ce qu'on peut trouver là les germes de cette fonction d'avocat et de cette passion d'anarchiste ?
Avocat, non, puisque je suis devenu, après un certain cheminement que je pourrais expliquer, mais c'est vrai que par rapport à mes origines et le comportement de mes parents, bon, un petit niveau, mais dans la résistance, m'a poussé à, disons, à être très sensibilisé à ce qu'on appelle la justice sociale. Voilà. C'est à partir de la notion de justice et de liberté que j'en suis venu, au cours d'un certain cheminement, arrivé à la fin de mon adolescence, à découvrir l'anarchisme plutôt que le marxisme. Enfin, mon père était soumis au STO, hein, donc voilà, il est appelé... Il est classe 42, donc il a été appelé et il a refusé. Mais en même temps, ses parents sont morts l'année suivante, donc il devait partir dans le maquis, dans le Vercors, puisqu'il était à Grenoble. Et finalement, il est resté s'occuper de son... Il était devenu le tuteur de son frère. Et bon, seulement, il s'est fait des faux papiers pour être tranquille, ne pas partir, voilà. Bon, et quant à ma mère, en 44, ben, elle s'est retrouvée à... en dessous d'Apt, là, le nombre reviendra à Céreste, c'est ça, Céreste, et elle était infirmière, disons, par sa profession de l'époque, et elle était agent de liaison avec le capitaine Alexandre, de son véritable nom, René Char. Donc, il y a cette filiation-là qui existe, et donc le fait que, je veux dire, ma mère a toujours été très branchée sur une question de justice, mes parents étaient, disons, politiquement, on peut dire, centre-gauche, voilà, catho-sociaux, si on peut dire, voilà. Leur grand homme, c'était outre De Gaulle, évidemment, à cause de la résistance, mais en même temps, c'était Pierre Mendès France. Voilà, un peu les références.
Al tuo governo schiavo d'altrui si rende d'un popolo gagliardo le tradizioni offende esulta la leggenda del tuo Guglielmo Tell esulta la leggenda del tuo Guglielmo Tell. Compagni, amici luganesi, addio bianche di neve, montagne ticinesi, i cavalieri erranti son trascinati al nord, i cavalieri erranti son trascinati al nord.
Je suis devenu assez vite, d'abord agnostique et ensuite même athée, dès l'âge de 15 ans. Et simplement après, c'est un cheminement personnel. Quand je suis parti aux États-Unis, j'avais 17 ans à l'époque. Et là, c'est de rencontrer la réalité sociale plus que là. Quand j'étais en France, j'habitais à Grasse, c'était quand même assez protégé. Et là, j'arrive aux États-Unis, en Californie. Et bon, dans un environnement de blancs traditionnels, mais en même temps beaucoup de Mexicains. Beaucoup de Mexicains. Et là où j'étais, ce n'était pas les Noirs, c'était les Mexicains, qui étaient ce qu'on appelle l'underdog, c'est-à-dire celui qui est en dessous du chien, bref, etc. Et j'ai compris le racisme du plus près. Et j'ai vécu aussi au niveau social, etc. Et c'est aux États-Unis que je me suis un peu radicalisé. Et quand je suis rentré en France, donc je suis rentré en classe de terminale. Et là, Rousseau, etc., et la façon dont ça m'intéressait, tous ces problèmes-là, c'est un copain, lui, déjà plus branché politiquement, qui était marxiste, qui me dit, mais j'ai l'impression que tu es anarchiste, tu devrais lire Bakounine. Ah bon ? Je ne connaissais pas spécialement, et donc je suis tombé sur La Liberté, le recueil de textes sorti à l'époque aux éditions de Jean-Jacques Pauvert, La Liberté de Bakounine, et ça a été... Je ne veux pas dire la révélation, mais c'était vraiment exactement ce que je pensais.
La liberté pour les anarchistes et pour toi, quelle est ta définition ?
La définition de la liberté, je pense, c'est ma liberté avec celle des autres. Ce n'est pas ma liberté contre celle des autres, ou surtout ma liberté commence ou s'arrête celle des autres. Non, c'est ma liberté, d'ailleurs, ne peut se concevoir que si les autres sont libres également. Donc les deux sont entièrement liés. Et c'est pour ça que cette notion de liberté qui m'intéressait, liée justement, je te parlais tout à l'heure de justice sociale, à la notion d'égalité. Et c'est là justement que ce qui m'a fortement intéressé dans l'anarchisme, c'est cette liaison liberté et égalité, alors que les libéraux traditionnels s'intéressent à la liberté, mais ma liberté comme celle des autres, et ceux qui sont très égalitaristes, comme justement, les marxistes traditionnels, c'est l'égalité, parfois au détriment de la liberté. Et j'ai lu assez rapidement, pas tout, mais j'ai lu beaucoup de textes marxistes, notamment le premier livre du Capital. Et c'est pour ça que cette rencontre entre anarchisme et marxisme fait que lorsque j'ai commencé à militer, j'ai milité à l'ORA, hein, l'Organisation Révolutionnaire Anarchiste, qui était la scission de la Fédération Anarchiste, se rapprochant justement des courants marxistes, hein, puisqu'il y avait une analyse de classe, il y avait bien une liaison entre, on peut dire, le meilleur de l'anarchisme et le meilleur du marxisme, et c'est pour ça que j'ai été amené justement, quand j'étais en fac à Grenoble, au niveau des bouquins qui sortaient, à m'intéresser, disons, aux éditions Spartacus. C'est comme ça que j'ai pu voir de plus près ces éditions, parce que ces éditions, justement, elles éditaient tout un tas de textes de l'extrême-gauche au sens très large du terme, marxiste bien sûr, mais plutôt d'ailleurs, je disais à l'instant, anti-léniniste, puisque c'était plutôt le courant conseilliste, le courant de Rosa Luxembourg, hein, puisque c'est Rosa Luxembourg qui est un peu, disons, la figure tutélaire du fondateur d'Édition Spartacus, qui était René Lefebvre, et c'est comme ça que j'étais amené sur le campus de Grenoble à diffuser Spartacus.
Écoutez-les, nos voix qui montent des usines, nos voix de prolétaires qui disent « y en a marre, marre de se lever » tous les jours à 5 heures pour prendre un car, un train, parqué comme du bétail.
Et tu as eu 20 ans en 68, parce que là on a sauté les années, mais ça a dû être un acte fondateur pour ton anarchisme.
C'est en 1967 que, disons, j'ai vraiment été intéressé par l'anarchisme et que je suis, disons, commencé à militer dans cette voie-là. Mais 68, effectivement, ça a été très très fort. Donc en mai 68, j'étais à la fac de droit. Et on a occupé la fac de droit, ce qui était extraordinaire, parce que la fac de lettres, évidemment, était occupée sans problème. Mais la fac de droit, et petite anecdote, tu sais très bien qu'en mai 68, il y avait une opposition très forte entre ce qu'on peut appeler en gros le courant gauchiste et anarchiste et le Parti communiste, hein, qu'on appelait à l'époque des gens aussi les staliniens, voilà, avec tout ce qui s'est passé en 68 par rapport à ça. Mais à la fac de droit de Montpellier, fac de droit de Nice, il y avait une alliance de fait qui partait des anarchistes jusqu'au Parti communiste, y compris, parce que c'était une lutte sur le terrain contre l'extrême droite. Parce qu'on en reviendra peut-être plus tard à reparler aussi de l'extrême droite actuellement, mais à l'époque déjà, à la fac de droit de Nice, l'extrême droite était assez forte, puisqu'en plus, dans mon amphi de première année, il y avait donc le responsable d'Occident, à l'époque l'appelait Occident, c'était un Falicon, et là où on voit la collection justement entre la droite et l'extrême droite, ce Falicon, 3 ans après, à peine ayant fini sa licence en droit, est devenu chef de cabinet de Jacques Médecin, qui était à l'époque le maire de Nice.
Le militantisme anarchiste, est-ce que c'est pas anachronique ?
Ah ben, de toute façon, c'est une question de période. Hein. Effectivement, quand tu dis l'anarchisme, ça peut être aussi une façon d'être, mais en même temps, il faut aussi essayer de changer les choses. Bon, pour changer les choses, il faut être avec d'autres et essayer de pousser à ce niveau-là. Il s'est trouvé qu'à Nice, à l'époque, hein, j'ai été en contact, par le biais de la fac d'ailleurs, avec des militants d'un groupe local qui s'est trouvé être l'organisation révolutionnaire anarchiste, donc l'ORA, et la façon dont ils fonctionnaient, ce qu'ils faisaient, les liens qu'ils avaient, et, parce que le groupe où j'étais, en plus, le groupe était à 80% un groupe ouvrier, hein, il y avait très peu d'étudiants dans ce groupe-là, c'était le groupe Eugène Varlin, et dans ce groupe, à l'époque, on est encore en 68, donc un certain nombre de ces membres du groupe anarchiste Eugène Varlin étaient d'origine espagnole. Et donc, le contact avec la CNT, la FAI, etc. Donc, c'était le côté, disons, organisationnel au sein du courant anarchiste. Hein, et l'anarchisme, effectivement, était assez vaste. Et donc, il s'est trouvé que, conjoncturellement, je me suis retrouvé en contact avec donc Laura, mais en même temps, j'étais en contact donc dès 1969 avec l'Internationale situationniste, puisque dans le numéro 11 de l'Internationale situationniste, donc en 1967, avait paru un texte assez extraordinaire sur la Chine, justement, pour démontrer comment la révolution culturelle chinoise, en réalité, c'était un peu de la poudre aux yeux, et qu'en réalité, c'était Mao Tse-tung qui essaye de revenir au pouvoir en lançant des mots d'ordre, et qu'en réalité, eh bien, il y avait une mystification de l'idée révolutionnaire, dans laquelle ont été pris un certain nombre de jeunes qui y ont cru.
Ce qui fait que tu vas t'investir dans l'anarchisme chinois.
Voilà, voilà, absolument. Alors en fait, pour la Chine, au départ, c'est purement anecdotique. Hein, c'est quand je suis à Grasse et je vais assez souvent, j'aime beaucoup le cinéma. Et en 1958, j'avais 10 ans. J'avais 10 ans, je vois le film Le cerf-volant. Le cerf-volant. Le cerf-volant rouge, un truc comme ça. Et donc c'est un jeune chinois qui l'a avec son cerf-volant. Et sur son cerf-volant, il lance le cerf-volant part et il se retrouve en France. Donc il chemine partout, etc. Donc c'est une espèce d'allégorie de rencontre entre les enfants dans le monde entier, etc., de passage d'un continent à l'autre. Et ce film sur la Chine m'a plu, j'ai les paysages, le pays, etc. Donc je me suis intéressé à la Chine déjà en tant que pays. Voilà. Et simplement, ce qui s'est passé, c'est qu'après, donc lorsque, effectivement, on disait à l'instant, eh bien, dans les années 60, la fameuse révolution culturelle et la façon dont en France, le courant maoïste très important s'est développé, etc. Tout ça et tout. Et à ce moment-là, donc je me suis dit, mais est-ce qu'il n'y a pas eu justement, vu les mots d'ordre que je disais à l'époque de Mao Tse-tung, qui était effectivement assez intéressant au départ par rapport à ça, eh bien, est-ce qu'il n'y a pas une tradition anarchiste à ce niveau-là? Et donc, je ne vais pas de Laura. Laura faisait partie de ce qu'on appelle la CRIFA, la Commission des relations internationales des fédérations anarchistes, c'est-à-dire que il y a des groupements anarchistes dans le monde entier, et donc cette liaison des différentes fédérations anarchistes dans le monde entier, à l'époque c'était Laura qui était qui tenait le secrétariat avec un certain Guy Malouvier, et c'est Guy Malouvier qui m'a dit mais ça t'intéresse, et qui m'a parlé d'abord de Pakin, donc cet écrivain chinois très connu comme écrivain, mais on oubliait qu'il était un militant anarchiste très important dans les années 30 et les années 40. Et donc, il m'a donné des informations pour attendre là-dessus. Et du coup, bon, comme j'étais parti aux États-Unis, donc je parlais l'anglais parfaitement, donc je ne lis pas le chinois, mais donc, parce qu'énormément de textes étaient sortis en anglais. Et donc, du coup, c'est comme ça que j'étais amené de plus en plus à m'intéresser à la fois à la Chine et plus particulièrement à l'anarchisme grâce à tous ces textes que j'ai pu découvrir par son intermédiaire et travailler là-dessus pour pouvoir ensuite écrire les bouquins que j'ai écrits sur le sujet.
Jean-Jacques Gandini, avocat à la robe rouge et noire, sur Dissonance. Tu deviens avocat en 76. Ça m'interroge, je sais pourquoi tu as choisi de faire des études de droit et de devenir avocat, alors qu'être avocat, tu agis dans le carcan du droit, alors que l'anarchiste essaie de se débarrasser du carcan de l'État. Et toi, tu restes dans ce cadre-là et tu t'éclates. Ou tu t'es éclaté, puisque j'ai oublié de le dire, tu es un avocat honoraire à la retraite depuis quelques années.
Non, en fait, c'est le hasard avocat. Hein. En fait, au départ, moi, ce qui m'intéresse, c'est justement, je voulais au départ, plus ou moins, je vise la position du journal, ou journaliste ou universitaire. Et donc, je voulais faire Sciences Po, hein, mais il n'y a pas de sciences politiques à l'époque, donc à Nice. Et mon père, qui était fonctionnaire dans les impôts et avait fait droit, m'a dit « Inscris-toi en droit, c'est pas de chose, c'est le droit, c'est important, etc. » Bon, à l'époque, j'avais 18 ans, etc. Bon, je me suis inscrit, je peux dire par défaut, à la fac de droit donc de Nice. Et donc, au bout de 3 ans à Nice, il s'est trouvé que, donc je vous disais, par mes origines, mon père était de Grenoble, avait des attaches à Grenoble, et il se trouvait qu'à l'époque, pour Paris, c'était un peu loin et assez difficile, que l'Institut d'études politiques le plus important en France, après Paris, c'était Grenoble. Donc, je suis parti à Grenoble, 71, j'ai donc la licence en droit. 72, j'ai donc le diplôme de fin d'études. Et je m'inscris en troisième cycle parce que j'envisage de faire une thèse. Parallèlement, donc, l'université, bon, je vois, c'était un peu bloqué. Journaliste, c'est pas non plus très évident parce que, bon, il faut avoir des contacts, etc. Et en même temps, je disais que j'étais effectivement donc, militant anarchiste dans des groupes. Alors là, c'était plus. L'aura s'était terminée. Et à Grenoble, il y a plein d'anarchistes, mais qui étaient sans chapelle quelconque. On a donc créé le GAG, le groupe anarchiste grenoblois. Et malgré tout, on faisait pas mal de choses. On était très impliqués aussi dans les mouvements. Moi, à l'époque, j'étais dans une cité ouvrière. Et donc, j'ai monté un des premiers comités, justement, de défense des locataires. J'avais créé, parce qu'à l'époque, vous savez, la sécurité sociale étudiante s'arrêtait à 26 ans. Donc, ayant eu 26 ans, ben, je me suis donc inscrit à la NPE, voilà. Et là, à la NPE, donc, ben, il y a plein de chômeurs aussi, donc je suis intéressé au problème du chômage, hein. Et on a créé un comité d'action chômage. On était les premiers à l'époque, avec les mouvements qu'on a fait, on a fait des mouvements d'occupation, la NPE, la CEDIC, etc. Enfin, on a fait pas mal de faire. En tant que guillemets, puisque c'était un peu moi qui était un peu à l'origine de ce comité, qui était un peu l'animateur, eh bien, au nom de ce comité de chômeurs, j'ai signé en 1976, une convention avec la CEMITAG. La CEMITAG, c'était la Société des Transports en Commun de Grenoble, pour que les transports en commun soient gratuits pour les chômeurs. C'était pas une première, la toute première, c'était à Colomiers, près de Toulouse, mais voilà, et donc pour dire les actions qu'on menait, voilà, et à part de ces actions-là, donc de plus en plus de copains à l'archive me disaient, mais écoute, on a pas mal de problèmes juridiques, etc., il y a aussi toutes les histoires, c'était à la suite, déjà un petit peu avant que la loi anti-casseurs de Pleven, etc., donc il y a une répression très très forte, ils me disaient, quand on va en justice, on est paumé, etc., t'as fait du droit, tu vois. Et c'est comme ça qu'ils m'ont incité, et c'est les copains militants anarchistes qui m'ont dit, ça serait... On aurait besoin d'avocats comme toi. Et du coup, alors que moi, j'avais fait sciences politiques, j'avais fait du droit, mais du droit public, hein, parce que droit international public, je m'intéresse surtout plutôt, effectivement, à cette branche-là du droit, eh bien, comme je travaillais l'été et que j'avais mis un peu d'argent de côté, eh bien, l'année 75-76, je l'ai consacré à préparer le CAPA, le certificat d'aptitude à la fonction d'avocat, hein, et à me mettre au droit privé, c'est-à-dire le droit civil, le droit pénal, etc., que je connaissais peu, puisque j'étais plutôt, comme je disais, branché sur le droit international public. Et j'ai réussi, ras les pâquerettes, à réussir le CAPA, donc c'est le cas d'aptitude à la fonction d'avocat, et je suis devenu avocat pour cette raison-là.
Ouais. On voyait les chevaux de la mer qui fonçaient la tête la première, et qui fracassaient leurs crinières devant le casino désert. La barmaid avait 18 ans et moi qui suis vieux comme l'hiver, au lieu de me noyer dans un verre, je me suis baladé dans le printemps de ses yeux taillis en amande. Quand sur la ville tombe la pluie et qu'on se demande si c'est utile et puis surtout si ça vaut le coup, si ça vaut le coup de vivre sa vie. Je suis parti vers ma destinée, mais voilà qu'une odeur de bière, de frites et de moules marinières m'attire dans un estaminet. Là, il y avait des types qui buvaient, des rigolos, des tout rougeaux, qui s'esclaffaient, qui parlaient haut, et la bière, on vous la servait bien avant qu'on en redemande. Oui, ça. Sur la ville tombe la pluie et qu'on se demande si c'est utile et puis surtout si ça vaut le coup, si ça vaut le coup de vivre sa vie. On est parti bras dessous dans le quartier où il y a des vitrines remplies de présences féminines qu'on veut se payer quand on est sous. Mais voilà que tout au bout de la rue est arrivé un limonaire avec un vieil air du tonnerre à vous faire chialer tant et plus. Si bien que tous les gars de la bande se sont perdus, se sont perdus comme en Stade, comme partout, quand sur la ville tombe la pluie. Et qu'on se demande si c'est utile, et puis surtout si ça vaut le coup, si ça vaut le coup de vivre sa vie.
Jean-Jacques Gandini, avocat à la robe rouge et noire, sur Dissonance. Et tu es devenu l'avocat des sans, S-A-N-E-S, sans papier, sans travail, sans droit, sans asile.
Effectivement, lorsque je suis devenu avocat, eh bien, c'était pour être avocat, pour être auprès, disons, des dominés contre les dominants. Voilà. Et quand j'ai commencé à Montpellier, eh bien, c'était surtout au départ, dès le début, c'était les problèmes de location et de squat. Je me suis tout de suite avec des problèmes de squat à m'occuper. Et surtout, en même temps, ce qui m'a intéressé, c'est qu'au-delà de la défense, tu vois, des grands principes, et donc de faire du droit pénal, c'était la défense au quotidien. Et donc, je me suis rendu compte que l'importance, si on essayait de faire évoluer les choses, c'était d'aider les gens, mais pour faire changer les choses dans leur quotidien. Et donc, je me suis mis au droit de la consommation. Donc, j'ai beaucoup travaillé dans le droit de la consommation et le droit du logement pour justement m'emparer du droit, pour à ce moment-là le retourner, si on peut dire, au service des dominés, puisque le droit, c'est effectivement, a priori, le droit est une... la défense de l'ordre établi, hein, on est bien d'accord, c'est la défense des institutions, mais dans le droit, il y a, il y a des tas de notions basées quand même aussi sur l'équité, sur le principe de proportionnalité, sur la théorie entre l'usage et l'abus de droit, etc., qui fait qu'on pouvait travailler là-dessus et essayer de faire avancer les choses. Et donc, je me suis impliqué, au-delà des procès d'ordre pénal que je pouvais faire pour la défense des libertés, sur la défense au quotidien. Et c'est pour ça que j'ai défendu les consommateurs, les locataires, les squatters, les chômeurs, les salariés, etc. Et petit à petit, je me suis fait un pied connaître sur Montpellier. Et effectivement, donc, je me suis constitué une clientèle assez importante, parce que sur Montpellier, eh bien, même si j'étais très marginal, c'est quand même une grande ville.
Tu as aussi défendu les gens qui refusaient le prélèvement ADN avec succès, les enseignants qui refusaient le fichage des élèves. Et j'ai souvenir de toi, tu avais écrit un texte superbe sur l'usage, sur la légalité et la...
Le débat légalité, légitimité, effectivement.
Voilà. C'était un texte génial où tu appelais presque les gens à user de leur droit à dire non.
Ah oui, exactement, exactement. Et ce qui m'a intéressé dans mes élèves, c'est d'une part, effectivement, le combat contre ce fichage des enfants, mais surtout, c'est la façon dont on l'a fait. C'est-à-dire, d'une part, j'étais l'avocat, mais j'étais l'avocat, je veux dire, advocatus, j'étais à côté d'eux, hein, je n'étais pas à votre place. Et j'ai porté votre parole, mais vous étiez également présent avec moi et présent. Et surtout, je ne sais pas si tu dois t'en rappeler, qu'à l'époque, donc, j'ai toujours même honoré membre du SAF, donc du syndicat des avocats de France.
Tu as été président pendant 2-3 ans.
J'ai été président national, effectivement, en 2013-2014. Et là, ça remonte à 2009. À l'époque, j'étais au bureau, membre du bureau national. Et là, on a eu une action qui a été menée à travers toute la France. C'est-à-dire qu'à travers le réseau du SAF, j'ai contacté un certain nombre d'avocats un peu partout. Vous étiez donc le CNRBE, Commune nationale de résidence des bas élèves, il y avait donc des réseaux un peu partout également. Donc on a fait des contacts et des liens entre les comités locaux et le SAF. Et le jour X, on a vu quand c'était, en 2009-2010, on a tous déposé ensemble, partout en France, des plaintes collectives concernant les gens qui refusaient le fichage. Voilà. C'était une action très très forte, très stimulante. Le résultat est un peu mitigé parce qu'on n'a pas obtenu entière satisfaction, mais quand même, le simple fait d'avoir fait l'action a fait que le gouvernement avait reculé et que par conséquent, un certain nombre de mentions les plus importantes avaient été retirées. Et on a quand même eu des décisions au niveau du Conseil d'État qui nous donnaient raison. Et surtout, là, en cours de procédure, comme le ministère avait reconnu un certain nombre de choses qui étaient contraires, eh bien, le représentant du parquet, le procureur, par conséquent, d'office, a essayé à retirer l'affaire du rôle, je peux dire, des poursuites, en sanctionnant, parce que ce qui n'est plus maintenant, parce qu'on appelle un rappel à la loi. Ça empêche les poursuites. Hein. Et en même temps, c'est quand bien qu'il y a quand bien une infraction qui a été commise. Et donc la preuve, c'est que justement, un certain nombre des mentions qui étaient, disons, contraires à la loi dans donc le fichage basé à l'élève ont été retirées, mais au dernier moment, et ça, c'est cette procédure de rappel à la loi fait penser à ce qu'on appelle également d'autres procédures en France qui s'appellent la composition pénale. La composition pénale, c'est des procédures qui permettent justement aux personnes qui sont poursuivies pour éviter le procès, ils payent. Et donc, c'est une procédure qu'on voit très souvent mise en avant par, pas plus tard que Bolloré. Hein. Bolloré essaie de passer à travers, justement, avec ce genre de procédure-là. Mais comme ça s'est su, ça a fait un gros tollé. Pour moi, l'affaire était renvoyée. On ne sait pas trop s'il va être poursuivi, effectivement, ou pas. Enfin, c'est ça pour dire que, dans le cadre du droit, on se rend compte, bien évidemment, que quand ça va un peu loin, eh bien, c'est toujours pareil. L'ordre est là, il faut rétablir l'ordre et empêcher que les choses vraiment changent. Mais malgré tout, comme je disais, en tant qu'avocat de base, mais avec ces combats qui ont été menés sur les différents domaines que tu indiques, il y a eu des avancées. Et donc quand il y a des luttes, que l'avocat est au service de ces luttes, eh bien, c'est une mayonnaise qui prend ensemble.
Tu as travaillé pendant 2 ans sur l'affaire Papon, sur l'extrême droite, enfin, qu'on peut relier à l'extrême droite. Et il se trouve qu'il y a, si tu veux en dire 2 mots, et après on parlera de ce qui se passe ici en Occitanie avec l'extrême droite et ce collectif du 22 mars. Et puis j'aimerais aussi qu'on dise 2 mots sur les jeunes avocats qui prennent la suite de ce que toi et les anciens ont fait.
Rapidement, donc par rapport à Papon, c'est une période, je parle trop dans les détails, ça, c'est une période de ma vie où j'ai pu avoir une certaine liberté de temps. Et donc, la Ligue des droits de l'homme a demandé, pour elle, de couvrir le procès Papon à Bordeaux. Et donc, je suis parti à Bordeaux au départ pour 2 mois. En fait, ça a duré 6 mois, puisque le procès était beaucoup plus long que prévu, sauf qu'il a été entrecoupé, parce que Papon avait quand même 87 ans. Et par 2 fois, il était malade, donc il a fallu suspendre le procès. Mais on connaît le résultat du procès. Et donc, j'ai fait un petit livre dans une collection de poche qui s'appelle Librio. L'année d'avant, j'avais fait une anthologie des droits de l'homme. Et donc là, en 99, et j'ai sous-titré ce livre, Le procès Papon, Histoire d'une ignominie ordinaire au service de l'État. Parce que Papon était un grand fonctionnaire, un haut fonctionnaire. Et bien justement, il a servi tout le monde. Aucun état d'âme, quel que soit le régime, la gauche, la droite, l'extrême droite, etc., c'est un fonctionnaire. Voilà. Il disait toujours que, en 1942, de toute façon, les Allemands, ils étaient là à Bordeaux. On avait l'épée dans le dos, on n'avait pas le choix. C'est ce qu'on appelle la théorie du moindre mal. Hein. Donc c'est Anna Arendt qui, justement, dans son livre, là, Eichmann à Jérusalem, rappelle cette théorie du moindre mal, hein, et surtout la théorie du mal ordinaire, hein, ce que représentait Eichmann, etc. Et donc, pour montrer que des gens comme Papon, ils n'ont pas d'état d'âme. Et ils servent tous les régimes, quels qu'ils soient. Et en même temps, malgré tout, en volonté de répression. Et donc, dans la résistance, parce que en juillet, août 1944, il a senti un peu le vent tourner. Donc, il s'est rapproché de ces moments de résistance. Mais le moment de résistance, justement, défense de la France. Hein, donc, du moment qu'il était plus ou moins proche des gaullistes, mais qui faisait partie de la droite. La droite, là-dessus, il faut être clair, il y a eu des résistants de droite, voire même d'extrême droite, notamment Destiendorf et d'autres connus en 1940-1941, notamment à Nice, parce que c'était des gens qui n'étaient pas anti-nazis, ils étaient anti-Bosch. On est anti-Bosch, défendre la France, mais en même temps, donc, ce courant quand même de résistance d'extrême droite existe, et d'ailleurs, au niveau de l'évolution de personnes, ne serait-ce que le secrétaire particulier de Jean Moulin, Daniel Cordier, il s'en est pas caché, quand il avait 18 ans, il était au Camelot du Roi. Hein, et après, bon, dans la vie, il y a des événements qui arrivent, qui fait qu'on peut évoluer, la preuve, ça a été le cas. Mais ça pour dire que, donc, à travers Papon, ce qui m'intéresse aussi après, c'est toute la répression, parce que à travers Papon, j'ai fait le procès qu'il avait intenté à Jean-Luc Einaudi par rapport à la guerre d'Algérie, et à travers la guerre d'Algérie, donc, où Jean-Luc Einaudi a été relaxé de la diffamation que lui reprochait Papon au procès de Paris, et j'ai su également l'affaire Ossarès. Ossarès, donc en même temps, on voyait bien aussi le lien entre l'armée et l'extrême droite, qui a débouché sur l'OAS et tout ce qui s'est passé, et ensuite, il y a tous ces nostalgiques de l'OAS, et qui ont rejoint notamment dans le Midi, et pas tous mélangés, mais un certain nombre de pieds noirs, hein, quand ils ont venu s'installer dans la région, ont été effectivement proches de l'OAS et de l'extrême droite, etc. Et donc ici, à Montpellier, comme à Perpignan, dans la région, il y a toujours un petit vivier d'extrême droite assez important. Et donc, un des combats qu'on a menés ici depuis très longtemps aussi à Montpellier, créer un groupe antifasciste au sens large du terme, hein, donc toutes les forces de gauche et d'extrême gauche.
Un collectif, donc.
Un collectif. Et donc, le collectif actuel s'appelle le collectif du 22 mars.
Se disent apolitiques ou se proclament identitaires, mais ce sont tous des fanatiques, des petits suppôts d'Adolf Hitler. Ils rêvent d'une France sans immigrés, vont dénoncer les sans-papiers, ils se branlent devant la télé, tout en rêvant de croix gammées. Alerta! Antifasciste!
Et donc le collectif actuel, c'est le collectif du 22 mars. Parce que c'est en lien avec l'intrusion à la fac de droit le 22 mars 2018 de commandos d'extrême droite qui voulaient déloger des étudiants qui occupaient régulièrement un amphithéâtre dans le cadre de la loi Or, hein, qu'il récusait, qu'il voulait discuter.
Ce n'était pas une action isolée, ça se faisait aussi en France. Hein.
Un peu partout. Hein, et donc, à travers ça, on s'est rendu compte que l'extrême droite avait quand même une certaine importance, et donc on a voulu créer ce comité pour rappeler, parce qu'à l'époque on essayait de noyer un peu tout ça, en disant, bon, on ne sait pas trop qu'est-ce qui s'est passé, c'est une extrême droite un peu particulière, et beaucoup de ceux qui ont participé à ce commando d'ailleurs sont restés un peu dans les... n'ont toujours pas été retrouvés, hein, parce qu'il y a une liaison quand même aussi entre la droite et l'extrême droite, hein, qu'on a pu démonter à la fête de droit de Montpellier. Et donc on a créé ce collectif du 22 mars qui comprend la Ligue des droits de l'homme, Sud 34, SNESUP FSU, CGT 34, NPA et la Jeune Garde. Voilà. Donc c'est tout cet ensemble-là qui donc a essayé de créer donc ce collectif du 22 mars qui, au-delà de l'affaire promenée de la fac de droit, s'intéresse justement à la façon de la résurgence assez importante de l'extrême droite ici, et donc on essaye de lutter par rapport à ça, de faire de l'information, et justement dans le cadre de ce procès, de dénoncer le comportement de ce que la figure emblématique en tant que prof à la fac de droit, un certain monsieur Coronel, hein, qui était responsable du département d'histoire du droit, puisque c'est lui, Coronel, qui était la tête de ce commando, qui a déboulé donc dans cette enfilade de la fac de droit, et qui a donc, à coup de taser, à coup de planches, dont sa tête était des planches encore cloutées, qui étaient prises avant à l'extérieur dans des palettes, et qui a donc causé pas mal de victimes, et pour lesquelles ils ont été poursuivis, à la fois disciplinairement, par les instances, disons, de l'enseignement supérieur, et en même temps pénalement. Et d'ailleurs, il y a eu un procès, ils ont été condamnés, ils ont fait appel. Et là, on attend justement la décision de la cour d'appel fin février, mais en même temps, M. Coronel a été rattrapé, si on peut dire, par la patrouille, puisque disciplinairement, il avait été poursuivi également, et en première instance, la première fois, il avait été révoqué, hein, et ensuite... L'année dernière, lorsqu'il avait fait appel, ce qui peut se comprendre, il a le droit bien sûr de faire appel, était tombée la décision du tribunal correctionnel qui avait condamné Coronel à 14 mois, dont 6 fermes, mais inexplicablement, au niveau de la peine complémentaire d'interdiction, 1 an d'interdiction seulement. Donc effectivement, son avocat s'en était emparé, on peut le comprendre de ce côté-là, pour expliquer la distorsion qu'il y avait. Et à l'époque, donc en mars 2022, donc le, ce qu'on appelle l'instance disciplinaire, s'appelle le Comité national de l'enseignement supérieur, a réduit la peine à 4 ans. Et donc, Coronel pouvait reprendre les cours, là, le mois prochain à Montpellier. Entre-temps, il y a eu quand même un pourvoi au Conseil d'État qui a été pris à ce niveau-là. Et là, bon, là aussi, il y a eu quand même apparemment des volontés, il faut le dire, politiques quand même, de se poser des questions sur ce Coronel. Et parce que ce Coronel ne se cachait pas en plus d'être d'extrême droite. Il avait été vu plusieurs fois avant 2018, notamment avec des gens de la Ligue du Midi, qui est un groupuscule identitaire à Montpellier. Et juste après les incidents de la fac de droit, comme il essaie de se mettre de côté, son premier interview, c'était à l'Incorrect, l'Incorrect, qui est un site d'extrême droite. Et ce que tu disais, lorsque l'affaire est revenue en appel, donc le 9 décembre à Montpellier, le 3 décembre, il est intervenu dans un colloque Forum Dissidence Polémia. Hein, c'était un site un peu bizarre au niveau de l'intitulé, mais en fait, le fondateur de ce site, c'est un Jean-Yves Le Gallou, hein, qui est un fondateur du GRES, proche de la revue Éléments et de l'extrême droite identitaire assez dure. Et dans ce colloque, intervenait également rien d'autre que Renaud Camus, le grand inventeur du grand remplacement, Thaïs Descuffon, qui est un nom de plume, mais qui était une responsable de génération identitaire, qui est allée faire la chasse aux migrants dans le Briançonnais, etc. Et lui est intervenu sur les persécutions universitaires en disant que c'était scandaleux et qu'il estimait qu'il n'avait rien à voir avec les poursuites qu'il avait contre lui, alors qu'il était avéré, même au niveau du procès, il a quand même dû reconnaître qu'il avait bien participé à ce niveau-là. Donc, il s'est trouvé donc qu'il y a eu ce pouvant au Conseil d'État, et là, curieusement, le Conseil d'État a rendu sa décision rapidement, le 30 décembre, même pas au bout de 6 mois, et là, il faut savoir qu'en matière disciplinaire, on peut apprécier si la sanction est proportionnée ou pas avec les faits tels qu'ils ont été établis. Et donc là, eh bien, le Conseil d'État a estimé que la sanction qui était prononcée n'était pas conforme aux faits. Parce qu'ils ont estimé qu'un professeur, de droit, qui est dans une faculté de droit, entre dans un amphithéâtre à la tête d'un commando armé de tasers et de planches pour taper ses étudiants, c'est absolument incroyable. C'est déjà incroyable en soi, mais qu'en plus, cette personne est professeur de droit, donc est censée enseigner justement et le droit, même si on sait que c'est le droit, disons, de l'ordre établi, en même temps, il y a son de valeur de droit, hein, liberté, égalité, fraternité sur tous les frontons, et le droit républicain, l'état de droit, etc. Donc, totalement inverser les valeurs, eh bien, donc, le Conseil d'État a estimé que cette sanction était insuffisante. Et donc, dans le cadre de la gradation. Et là, pour faire très simple, il y a 7 sanctions possibles. On part du blâme jusqu'à la révocation d'office. La sanction donc de 5, jusqu'à 5 ans, là c'était 4 ans, c'est la sanction du 5e échelon. Et donc le Conseil d'État a dit très clairement, je renvoie le dossier au CNESER pour qu'il prenne une sanction adaptée. Et les 2 seules sanctions possibles, c'est la 6 ou la 7. La 6, c'est la retraite d'office. Et la 7, c'est la révocation. Donc en toute hypothèse, Monsieur Coronel, pour vous, l'université, c'est terminé.
Donc c'est une victoire attribuée à ce collectif, mais aussi à un groupe d'avocats qui ont mené une guérilla juridique. Et pour avoir assisté le 9 décembre, j'ai le souvenir de quelqu'un que les médias ont présenté comme animatrice du collectif. Je ne sais pas si c'est la vraie fonction, mais c'était Sophie Mazas. Elle était sur les grilles en train d'afficher des trucs Black Rob...
Black Rob
Brigade à la BRB.
Deux fonctionnaires donc qui comparaissent ou qui vont comparaître devant le tribunal correctionnel de Paris. D'un côté, 3000 condamnations côté manifestants. Pour vous, Sophie Mazas, c'est un deux poids deux mesures en la matière.
Alors oui, c'est un deux poids deux mesures, mais surtout la contrainte et la violence, elles viennent de ce gouvernement. Ce gouvernement, en fait, qui à partir de décembre a donné l'ordre en fait aux forces de police de faire une répression féroce sur les manifestants.
Et il y a toute une génération de jeunes avocats maintenant qui sont des avocats militants ou des avocats rebelles et qui permettent ce genre de choses.
Non, simplement, je voulais dire, je voulais rendre hommage à Sophie, parce que Sophie Mazas, qui est une amie également effectivement de longue date, mais en même temps, c'est quand même elle qui, justement, en 2018, à l'époque, elle était la présidente de la fédération de la LDH à Montpellier, elle a beaucoup, beaucoup œuvré pour dénoncer ce qui s'était passé et pour aider les victimes de ce qui s'est passé. Donc il faut vraiment rendre un hommage très important à Sophie pour tout ce qu'elle fait à ce niveau-là depuis 4 ans et concrétiser par ce que tu viens de dire. Donc elle, elle était devant dans les grilles, moi j'étais à l'intérieur pour rendre compte du procès. Voilà. Et par rapport à ce que tu dis, ces jeunes avocats, effectivement, les Black Rob Brigade, BRB, en fait, c'est un jeu de mots par rapport à la BRB, Brigade de répression du banditisme, etc. Il y a effectivement ce genre de avocats. On voit plutôt d'ailleurs, il faut le dire, région parisienne, sur Paris, dans les manifestations importantes, et qui, non seulement, effectivement, défendent les manifestants, ce qu'on a fait nous à Montpellier, etc., mais sont sur le terrain. Nous à Montpellier, avec Sophie notamment, on avait créé donc un observatoire.
L'Observatoire des libertés, à l'époque des Gilets jaunes, c'est ça?
Au moment des Gilets jaunes, continue maintenant, ça s'appelle Observatoire Liberté Montpellier, pour être présent dans la manifestation et rendre compte des exactions qui se passent, des violences, et notamment, bien sûr, les violences policières, pour les documenter et les dénoncer. Et donc, à Paris, un certain nombre d'avocats également sont décidés non seulement à défendre les manifestants, mais il faut être sur le terrain et voir comment ça se passe.
Tu penses à Alexis Baudelin?
Alors, je ne pense pas spécialement à Alexis Baudelin, parce que bon. Il s'est trouvé que je ne le connais pas. Je ne le connais pas parce qu'en fait, ayant vu un peu son pédigré, en fait, il est devenu avocat en 2016. Il est avocat, justement, où l'année, moi, j'ai arrêté. Mais par contre, il y a certains d'autres avocats, donc certains un peu plus anciens que lui, mais enfin, que je connais bien, notamment Stéphane Maugendre. Et surtout, enfin, moi, le jeune avocat avec qui je travaille pas mal maintenant, actuellement, qui est assez connu sur Paris aussi, c'est Raphaël Kempf, et qui a écrit notamment... un petit coup de chapeau à Raphaël, il a écrit deux bouquins très intéressants dont j'ai rendu compte d'ailleurs dans le monde diplomatique. Le premier, c'était sur les violences d'État en matière policière, hein. Et d'ailleurs il rappelle justement, il fait un lien avec la propagande par le fait et les lois scélérates anarchistes de la fin du 19e siècle. C'est un bouquin qu'il a sorti à la Fabrique il y a 2 ans, et là il vient de sortir un bouquin sur les violences judiciaires pour montrer justement qu'on ne faut pas porter le chapeau uniquement à la police, il faut dénoncer aussi ce qui se passe au niveau de la justice. Et donc, ces jeunes avocats, effectivement, sont présents sur le terrain, ils sont dans les manifestations, et parfois, certains d'entre eux finissent en garde à vue, hein. Et effectivement, donc j'ai vu, effectivement, donc Alexis Baudelin, avec son drapeau, etc., tout ça et tout.
Son drapeau noir, voilà. Qui prend partout.
Et effectivement, et donc... il y a une nouvelle génération d'avocats et d'avocates, parce que je rappelle quand même que maintenant que les avocates sont à la fois majoritaires au sein de la profession, mais en même temps elles sont aussi aux responsabilités et elles sont très présentes. Actuellement, sur Montpellier, la présidente de la section du syndicat des avocats de France, c'est Julie Moulin, et la présidente nationale, c'est Claire Dujardin, qui est avocate à Toulouse, qui est d'ailleurs une des avocates de Rémi Fraisse, entre autres. Voilà, donc des avocats impliqués sur le terrain et qui prennent des risques, parce que malgré tout, si jamais, soi-disant, l'avocat dépasserait un petit peu sa fonction, et donc il est censé quand même respecter sa profession et faire attention, eh bien, il n'hésite pas à aller sur le terrain et effectivement être présent là où sont les gens pour les défendre directement, si on peut dire. Et ces jeunes avocats, effectivement, c'est intéressant, parce qu'on ne pouvait plus penser à un moment donné qu'il y avait quand même une certaine lassitude. On voit comment les choses évoluent actuellement. La situation n'est pas facile actuellement, c'est avec tout ce qui se passe. Eh bien, ça donne du baume au cœur de voir que la nouvelle génération d'avocats et d'avocates, eh bien, prend le relais et va continuer à assurer ce que nous, de notre côté, on essaie de faire quand on était en exercice également.
Buenaventura Durru, Ascaso y García Oliver, llamados los solidarios que desprecian al poder.
Le centre Ascaso Durruti, c'est un centre au départ, ce qu'on appelle en Espagne un athénée libertaire, c'est-à-dire c'est un centre qui à la fois permet aux gens de s'instruire, puisqu'il y a une bibliothèque et un fonds d'archives, qui ici à Montpellier est dû à un anarchiste espagnol de son nom de plume, Abel Paz, serait un nom Diego Camacho, et qui a écrit, on peut dire enfin en français, la biographie la plus intéressante sur Durruti, Buenaventura Durruti, qui était, disons, des membres de la CNT espagnole assez importants en 1936, et qui est mort brutalement devant Madrid en novembre 1936. Et Ascaso, c'est également un membre important de la Confédération nationale du travail, la CNT, et de la FAI, Fédération anarchiste ibérique, qui lui est mort tout de suite dès le 19 juillet, lorsqu'il y a eu la contre-insurrection pour contrer le coup d'État qui était lancé par Franco et ses sbires, eh bien, lorsqu'il y a eu l'attaque, notamment des casernes à Barcelone pour prendre les armes, justement, et pouvoir contrer le coup d'État, Ascaso a été tué à ce moment-là. Donc, on a voulu rendre hommage à la fois à Ascaso et Durruti, en créant donc ce centre Ascaso-Durruti, qui existe depuis 25 ans à Montpellier, et qui essaye donc, d'une part, de faire porter l'information, rappeler ce qui s'est passé en Espagne, parce que en Espagne, il y a eu la guerre, mais évidemment, il y a eu ce qu'on appelle le mouvement des collectivisations, hein, notamment entre juillet 36 et mai 37.
Ce qu'on appelle la Révolution espagnole.
Voilà, la Révolution espagnole, collectivisation à tous les niveaux, industrie, commerce, bien évidemment, agriculture, etc. Et donc, il y a eu un mouvement très important, essentiellement en Catalogne et en Aragon, mais également, avant d'être réprimé, il y a eu aussi des choses importantes en Andalousie, et au Pays Basque, etc. Donc c'est un mouvement très important de réalisation libertaire. On peut dire là, il y a eu l'anarchie en acte qui, pendant un certain temps, et donc ça peut montrer que ça peut, ça existait et ça peut exister à nouveau. Donc au niveau du CAD, nous essayons donc de faire des informations donc, grâce à ce fonds de bibliothèque et d'archives. Et donc, on fait également donc, des conférences, débats, des réunions, etc. Et effectivement, la semaine prochaine, je vais parler du numéro 49 de La Réfraction, une revue aussi, une revue anarchiste, d'analyse, d'expression anarchiste au pluriel, et un numéro qui donc, est assez symptomatique, qui s'appelle « Aux confins de l'anarchisme », c'est-à-dire qui essaie de voir dans les mouvements révolutionnaires, marxistes et autres, ceux qui sont assez proches des idées libertaires pour en parler, les mouvements conseillistes notamment, et c'est pour ça que les conseillistes, les surréalistes, les membres de l'international situationniste, le groupe aussi Socialisme ou Barbarie de Castoriadis, donc c'est de tout ça dont on parle dans ce numéro, et moi-même justement, pour revenir à ce qu'on disait au début, eh bien, je fais une interview donc, de Georges Valadas, donc, un des membres importants donc, des éditions Spartacus, que j'ai rencontré. Pourquoi ? Parce que justement, Georges Valadas, en 1973, a écrit, en 1973, hein, un bouquin qui s'appelle « Chine, le tigre de papier hein, », sur le développement économique de la Chine entre 1949 et 1971, pour montrer que, au-delà de l'apparence, disons, révolutionnaire qui veut donner Mao Tse-tung et les autres, eh bien, c'était la mise en place d'un capitalisme d'État. Et donc, sortir ça en 1973, alors qu'on était en France en pleine encore effervescence des raisons culturelles, c'était quand même assez fort. Et donc, raconte un petit peu, donc, à travers l'itinéraire de Georges Valadas, qui lui-même est d'origine portugaise et avait fui le Portugal de Salazar. Il avait refusé et était déserteur de l'armée portugaise et donc il était réfugié en France. Et bien, à travers cette expérience-là, pour montrer justement comment le mouvement révolutionnaire, il est large. Et il ne faut pas avoir des œillères, et donc c'est en fonction des situations que choses peuvent évoluer. Je veux dire simplement, quand il y a eu 17, les anarchistes n'ont pas posé la question que c'était les bolcheviques qui étaient, disons, un peu le fer de lance au départ en octobre 17, ils sont allés également. Hein, à chaque fois qu'il y a une révolution qui se passe quelque part, eh bien, on est présent. Après, cette révolution évolue, il faut voir comment ça se passe, etc. Donc là, c'est concrètement voir comment les choses peuvent évoluer. Mais au départ, quand il y a une situation qui se passe comme ça, il n'y a pas de question d'étiquette ou d'idéologie. Hein, il y a une véritable volonté de changer les choses. Eh bien, on y va. Ce qui est important à se dire, c'est que même s'il y avait... il y a eu, je t'ai expliqué donc, cette réalisation en Espagne. D'ailleurs aussi, il y a un auteur qui vient de disparaître là récemment, un Allemand, Hans Magnus Enzensberger, et qui avait écrit à l'époque « Le bref été de l'anarchie hein, ». Parce que c'est surtout pendant l'été 36 que ça s'est passé, mais il y a eu des réalisations concrètes. Actuellement, il y a, même si ce n'est pas explicitement anarchiste, mais ce qui se passe au Chiapas, ce qui se passe au Rojava en Syrie, c'est des expériences sur le terrain propres qui vont dans ce sens-là. Et ce qu'on peut dire, c'est que si jamais une société libertaire venait à devenir, mais elle ne sera jamais figée, parce que même il y aura toujours des problèmes à l'intérieur des gens, il y aura toujours des tendances autoritaires. C'est un mouvement sans arrêt. Je veux dire, il ne faut pas croire que le... Donc, c'est pour ça que, par rapport à ce que tu disais, eh bien, il y a sans arrêt un mouvement de progrès et de régrès, de discussion, et même si un régime libertaire advenait, il pourrait aussi y avoir des tendances de certains à qui ça monterait la tête. Donc il faut toujours qu'il y ait des pouvoirs et des contrôles contre-pouvoir, et donc c'est un mouvement continu. Mais en même temps, il y a eu des réalisations, et pour venir à l'actualité par rapport à ce qui passe en Ukraine, je rappellerai qu'en Ukraine, en 1921-22, eh bien, il y avait ce qu'on appelle la Makhnovtchina, c'est-à-dire le nom de Nestor Makhno, hein, une armée insurrectionnelle qui a lutté contre les Blancs, pour mettre les Blancs dehors, mais après, il a fallu lutter contre les Rouges, puisqu'il y a un retournement de situation, notamment le dénommé Trotsky, eh bien, il faut dire les choses telles qu'elles sont, a planté le poignard dans le dos des Makhnovistes, mais les Makhnovistes qui étaient dans la région de l'Ukraine sud, hein, ce qui est maintenant d'ailleurs en partie sous domination russe assez proche de la Crimée, hein, Kherson, entre Kherson et la Russie, eh bien, un goulag pollué et tous les environs, eh bien, pendant trois ans, entre 1919 et 1922, eh bien, il y a eu à la fois la guerre, en même temps, il y a eu des collectivisations, c'était essentiellement une révolution paysanne à l'époque, puisque c'était tous les paysans qui étaient importants à l'époque dans l'Ukraine de ces années-là, pour mettre en place, justement, un fonctionnement libertaire concret sur le terrain.
Être anarchiste, c'est être toujours en mouvement, créer, inventer, être vivant.
Être vivant et ne pas hésiter à se remettre en cause et à ce que les autres également vous remettent en cause si jamais vous deviez avoir, à un moment donné, ce qui peut arriver à tout le monde, des pulsions autoritaires qui doivent être combattues. Et c'est pour ça que je dis, il n'y aura jamais un régime anarchiste en tant que tel. C'est toujours une lutte perpétuelle parce que l'homme étant ce qu'il est, il y a toujours des tendances à vouloir, disons, être un peu plus égaux que les autres. Et le but de l'anarchisme, c'est de rappeler qu'on est tous libres, mais en même temps, on est tous égaux et on est tous solidaires.
Merci beaucoup, Jean-Jacques.
Salut.
Et fraternité.